qu'on nous donne quelque chose de très précieux, est-ce pour le garder pour nous ou pour le partager avec d'autres autour de nous? Pour répondre à cette question, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, au verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre ton argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, il s'agit d'une parole sur les derniers temps, illustrant le royaume de Dieu, qui suit juste celle, la parabole des 10 vierges, qui exhorte à bien veiller en attendant le retour de Jésus, et juste avant celle du jugement des nations qui distingue les brebis et les boucs. Le titre long que j'ai donné à ce message, c'est l'importance primordiale de faire valoir autour de nous ce qui a été déposé en nous, et un titre court, de manière abrégée, recevoir pour faire valoir. Donc, dans une première partie, je parlerai du privilège d'avoir reçu le don de connaître Dieu. Dans cette parabole, qui est la parabole des talents, on parle d'un nombre de talents différents qui est donné par le maître à ses serviteurs. Il y a 1 talent, 2 talents et 5 talents. Donc 1 talent, C'est pas comme dans notre français on peut l'imaginer, c'est une très très grosse somme d'argent. Donc un talent, ça représente 6 000 deniers, ce qui correspond au salaire de la moitié d'une vie d'un ouvrier à l'époque. Donc c'est une somme énorme. Donc, on voit que c'est traduit dans des versions plus modernes par sac d'argent. Et ce que cela montre, c'est que Dieu donne avec générosité, avec abondance. Et Dieu, il donne, il accorde des dons à chacun selon différentes mesures et les capacités de chacun, il est écrit. Des capacités naturelles qui peuvent ensuite devenir d'autres capacités spirituelles. Et en fonction de nos capacités, Dieu y verse des ressources plus ou moins en grande quantité. Donc ça peut être la connaissance de sa vérité, l'amour, l'argent, le temps. Et ce qui semble le plus important dans ces ressources, c'est ce qui est lié à la connaissance de la vérité. Et c'est avant tout Dieu qui se révèle à nous. Selon différentes mesures, chacun a une connaissance plus ou moins importante de Dieu selon ce que Dieu a bien voulu mettre dans son cœur. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on connaît des choses sur Dieu ou bien est-ce qu'on connaît Dieu lui-même? Et le don de Dieu en premier qui est confié en nous, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui est mis en nous et qui est reçu selon la capacité de chacun. Et si on ouvre l'évangile de Jean au chapitre 14, il est écrit quelque chose qui est important à plusieurs reprises. Je vais lire de Jean 14, du verset 15 au verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc vous voyez peut-être un verbe qui revient à plusieurs reprises, c'est le verbe connaître. Et là, c'est pour ça que c'est connaître la vérité, être un dépôt de vérité comme un vase, tout en vivant conformément à cette vérité, car la vérité rend libre. Dans Jean 8, verset 32, il est écrit: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est un privilège d'être un dépôt. Et l'Église auquel nous faisons partie, l'Église dans le monde, elle a pour mission d'être un dépôt de vérité pour la société. Et ce que l'on peut faire pour chacun de nous, c'est faire l'inventaire de ce que l'on a reçu dans ce dépôt. Qu'est-ce que l'on a reçu dans notre cœur qui a de la valeur, qui constitue ce talent, ce grand sac d'argent que le Maître a bien voulu déposer en nous. Lorsque Dieu donne, il équipe pour mettre en valeur ce don. Lorsque Dieu donne, il équipe en fonction de ce qu'il a donné. Il accorde des capacités, des dispositions en fonction de ce qu'il a prévu de donner. C'est pourquoi il est important de ne pas résister à l'action de Dieu. On peut prendre l'exemple du réformateur Calvin, et Dieu lui avait beaucoup révélé de lui-même, mais aussi Dieu, il faut voir qu'il lui avait donné une très très grande capacité de travail, parce que Calvin, il a pu écrire 10 000 pages, dont beaucoup étaient écrites à la lumière de la bougie, très tôt le matin, avant qu'il fasse jour, malgré une santé fragile. Donc, lorsque Dieu donne un don, il équipe, il met en nous les capacités pour faire valoir ce don. Et comment utilisons-nous ces ressources que Dieu y met à notre disposition? Est-ce seulement pour nous? Et là, on en vient à cette deuxième partie qui est le devoir de répandre et de faire valoir ce que l'on a reçu. Donc le premier point dans cette deuxième partie, c'est de faire fructifier le don que l'on a reçu. Les deux premiers serviteurs, ils ont pu faire fructifier les 5 et 2 talents qu'ils avaient reçus. À partir de 5 talents, le premier serviteur a fait fructifier 5 autres talents, et celui qui avait reçu les 2 talents, il a fait fructifier 2 autres talents. Ils ont été tous deux félicités de la même manière par le maître qui leur a dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et là, ça laisse, si en faisant fructifier, doubler une telle quantité de talent, ça laisse beaucoup présager sur la joie que le maître nous donnera par la suite. Mais celui qui a reçu un seul talent, qui ne l'a pas fait fructifier et qui l'a enterré, qu'est-ce qui lui est devenu? Dans l'image de la parabole, il aurait dû au minimum le confier à une banque afin d'obtenir des intérêts. Lorsqu'on a un trésor, est-ce pour l'enterrer? Lorsqu'on a une lampe, est-ce pour la dissimuler? Dans Matthieu 5, verset 15, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « On n'allume pas de lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc, ce serviteur, on sait ce qui lui est arrivé à la fin. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Et en fait, il n'y avait pas de vie en lui. Il n'avait pas le salut. Il n'y avait pas de vie dans ce serviteur qui a reçu un talent. C'est comme s'il n'y avait pas de sève pour porter de bons fruits. Un arbre qui ne porte aucun fruit est coupé. Et ce qu'on peut dire, on parlait de connaissance, de connaître la vérité du maître, connaître le maître. Et là, ce serviteur, en fait, il ne connaissait pas le maître. Il disait « Seigneur, Seigneur », mais il ne connaissait pas le maître. En fait, il a voulu prendre aucun risque parce qu'il a enterré, parce que se promener avec une grande quantité d'argent comme ça, c'est prendre un risque. Les deux premiers serviteurs ont voulu prendre ce risque, mais lui, il n'a pas voulu prendre ce risque. Il a eu peur et l'a enterré. Et vivre, c'est risquer. Je pense que lorsqu'un bébé dans le ventre, il sort pour voir la lumière du jour, déjà, il prend un très grand risque. Et en fait, c'est vivre, c'est risquer. On le voit dès le premier jour de la vie à la lumière. Et ce serviteur a un talent, il avait choisi de ne prendre aucun risque, contrairement aux autres. Et là, en ce moment, je suis une formation de gestion de projet sur notamment la gestion des risques. Et on m'a donné une citation de Benjamin Franklin, l'Américain qui est à l'origine du paratonnerre et qui vivait dans une véritable paranoïa. Et lui, il a pu dire... Une citation qui m'a marqué, Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. Je répète, il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne pas prendre de risques. Donc les deux premiers serviteurs, ils ont pris des risques, ils ont fait doubler ce qu'ils avaient reçu, mais ils ont été récompensés à la fin, alors que celui qui n'a pas pris de risques, qui n'avait pas la vie, qui ne connaissait pas le maître, eh ben, il a préféré ne pas prendre de risques et nous ne devons pas suivre son exemple. Et prendre des risques, c'est aller vers les autres, parce que lorsqu'on va vers les autres, on prend toujours un risque, le risque de se faire rejeter, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Dans Romains 10, versets 14 à 15, il est écrit: mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc comment saura-t-il s'il n'y a personne pour leur dire? Et ça, c'est en toutes circonstances qu'il faut prendre des risques pour aller dire aux personnes, qu'elles soient favorables ou non, comme il est écrit dans 2 Timothée 4, saisir toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou non, leur répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en n'importe quelle circonstance, qu'elles soient favorables ou non. Donc sur la parabole des talents, qu'est-il arrivé à celui qui a préféré maintenir la vérité captive en enterrant ce qu'il avait reçu de son maître? Donc je vous l'ai dit, il a été jeté dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et les grincements de dents. Et donc la vérité, c'est justement qu'il ne faut pas maintenir la vérité captive, mais qu'il faut mettre en valeur ce don que l'on a reçu de connaître la vérité du salut en Jésus-Christ. Une petite illustration: si vous êtes assis dans le métro ou dans le train et que vous voyez une personne en face de vous, avez-vous de la compassion pour elle à l'idée qu'elle ne connaisse pas Jésus? Et là justement, pourquoi c'est dans le métro, bien dans le train, quand on prend des transports, dans le bus? Et moi, si je prends l'exemple du métro, c'est parce que justement un jour j'étais dans le métro et que je fixais un monsieur qui m'intriguait, qui transportait une quinzaine de raquettes de tennis dans un sac de sport. Et donc je le regardais intrigué, je regardais son sac et puis lui, il m'a fixé et il m'a tendu un traité chrétien me disant: j'ai un peu de lecture pour vous. Et lui, il a eu de la compassion pour moi, pensant que je n'étais pas au Seigneur, et il m'a partagé son trésor, ce traité qu'il avait avec lui. Donc ça m'avait touché. Et avec des amis de longue date, on peut se rendre compte que l'on n'ose pas leur parler du Seigneur de peur de briser une amitié. Mais ne pourrait-il pas nous reprocher, ses amis, de ne pas leur avoir dit la vérité lorsqu'ils comparaîtront devant leur juge, d'avoir maintenu la vérité captive à leur égard? Donc le but, c'est vraiment que chacun autour de nous puisse connaître la vérité. Et la question qu'on peut se poser, c'est: quelles sont les conséquences si je n'annonce pas l'évangile à ceux qui sont autour de moi? Donc l'origine de tous les problèmes, c'est ce qui devrait être notre plus grande préoccupation, c'est l'ignorance. Paul, Dans Acte 17, il affirme que nous sommes dans un temps d'ignorance. C'était valable au temps des premiers chrétiens, mais c'est valable aussi de notre époque. Et le problème, c'est que l'ignorance détruit. Mon peuple périt faute de connaissance. Il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6. La question, c'est, est-ce que toi, tu es dans ce cas-là? Peut-être connais-tu un certain évangile dont tu as déjà entendu parler, une certaine bonne nouvelle, mais est-ce un évangile, une bonne nouvelle ayant pour seul fondement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Péris-tu faute de connaître le véritable message de l'évangile? Accepter que seul Jésus peut te sauver de tes péchés. Donc la connaissance, elle vient de l'information que l'on peut apporter, et il y a besoin de détruire l'ignorance qui sévit autour de nous. Combien autour de nous ignorent ce message? Donc le seul remède, c'est l'information, la connaissance de la vérité. Et dans Jean 8, verset 32, je le répète encore, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. » Donc notre mission, quelle que soit la mesure de connaissance que l'on a reçue, c'est de transmettre le message de vérité concernant le salut. Et ce message, c'est que l'on peut être réconcilié avec Dieu seulement à travers Jésus-Christ qui a pris sur lui notre condamnation, et que c'est seulement ainsi que l'on peut marcher en nouveauté de vie, ce que l'on appelle la vérité éternelle. Paul a pu dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Ça, c'est dans Corinthiens 9, verset 16. Et dans le contexte où il écrit cela, c'était quelque chose qui était une nécessité pour lui. Ce n'était pas quelque chose de discutable, une option. Excusez-moi. Donc, ceci a un coût, comme je le disais, parce que on se fait souvent rejeter, pas si souvent que ça, mais ça peut arriver, quand on ne pense pas comme les autres. Et que ça, et aussi, donc on se fait rejeter quand on ne pense pas toujours comme les autres, mais c'est un coup qu'il faut risquer. Je parlais du risque, c'est un risque qui est nécessaire. Mais aussi, ça, c'est un chemin difficile, mais ça procure aussi une grande joie. C'est une grande joie lorsque autour de nous, on accepte le message. Nos amis, nos connaissances, ils acceptent la connaissance du Seigneur. C'est aussi une grande joie, l'approbation du Père qui voit que l'on suit le chemin de son Fils. Ce n'est pas un renoncement aride, quelque chose que l'on ferait par devoir, mais on est débordant de joie lorsque l'on trouve son plaisir en Dieu, comme dirait John Piper. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement par rapport à ça? C'est chacun de nous, avant de partir de chez nous, lorsqu'on part de chez nous, on vérifie toujours si on a ses papiers, on vérifie si on a pris son téléphone portable. Mais il y a quelque chose que l'on peut vérifier en plus, c'est que l'on a bien sur nous des écritures, comme des petites bibles, des évangiles, des nouveaux testaments, ou bien des traités sur nous. Et aussi, c'est de prier que l'on puisse rencontrer les bonnes personnes qui seront réceptrices à tout cela sur le chemin du travail, ou bien de là où on doit aller. Donc, en conclusion, là, notre mission, c'est quelle que soit la mesure de connaissance que l'on a reçue, 1, 2 ou 5 talents, c'est de transmettre le message de vérité concernant le salut. On a vu que c'est pas quelque chose de facultatif, d'optionnel, mais c'est quelque chose d'essentiel, de primordial. La grâce, elle est reçue pour être donnée. C'est le titre d'un livre de Richard Blackberry, mais que l'on peut méditer. La grâce, elle est reçue pour être donnée. Et on peut reprendre les paroles que Paul a données à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et pour nous, notre prière, c'est que Dieu y fasse fructifier ce qu'il nous a confié. Amen.